Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La métropole du Grand Paris fêtera bientôt son deuxième anniversaire. Elle existe depuis le 1er janvier 2016. Un ensemble constitué de la capitale, des départements de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, auquel il faut ajouter Argenteuil dans le Val-d'Oise et les 6 communes des Portes de l'Essonne. Une superficie de 814 km², soit 8 fois celle de Paris intramuros. Un géant, mais un géant de papier. Pour l'heure, il s'agit surtout d'un projet, bien davantage que d'une réalité tangible, un objet politique difficile à identifier et pour lequel il faudra attendre encore un peu pour le voir se préciser. Emmanuel Macron avait prévu de donner ses orientations ce jeudi, peut-être en décidant la suppression de certains départements. Et le rendez-vous a finalement été remplacé par une conférence nationale des territoires à Cahors. Alors une des difficultés tient évidemment à des enjeux de pouvoir, qui sera aux commandes de quoi. Mais le véritable défi est peut-être ailleurs. Comment rendre cohérent un aussi vaste ensemble? Comment créer une identité commune à la communauté des grands parisiens? Une des craintes des villes périphériques est que la capitale fasse comme elle l'a toujours fait, qu'elle absorbe ce qui l'entoure, voire qu'elle l'annexe. Mais étant donné l'ampleur du projet, n'est-ce pas l'inverse qui pourrait se passer? Une dilution du Paris historique dans un ensemble indéterminé. Alors le petit Paris va-t-il se perdre dans le grand? Nous allons discuter de ce sujet ce soir en compagnie de trois invités. Philippe Panneret, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte urbaniste, vous avez obtenu le Grand Prix de l'urbanisme, c'était en 1999. Vous aviez publié, c'était au moment de la consultation internationale sur le Grand Paris, Paris Métropole, Formes et Échelles du Grand Paris, aux éditions de La Villette, c'était en 2008. Vous êtes par ailleurs, enfin, et notamment, membre du collectif éditorial de la revue Tous Urbains. Revue Tous Urbains, dont nous recevons le directeur de la publication, la personne d'Olivier Mongin. Bonsoir.
Ce qui est beaucoup moins important que le directeur de la rédaction, qui est M. Panneret. Voilà.
Oui, mais vous avez peut-être d'autres responsabilités financières,
en tout cas.
Vous êtes Olivier Mongin, écrivain et essayiste. Vous dirigez la revue Esprit.
Non, je l'ai dirigée longtemps.
Vous l'avez dirigée. Et vous avez publié La ville des flux, l'envers et l'endroit de la mondialisation urbaine. C'était chez Fayard en 2015. Et puis notre troisième invité, Emmanuel Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, chargé de recherche au CNRS, membre du comité d'histoire de la Société du Grand Paris et du comité d'histoire de la ville de Paris. Vous êtes un des auteurs de l'ouvrage Paris banlieue, conflits et solidarité, publié en 2007. Je cite quand même vos co-auteurs Annie Fourcault et Mathieu Flonneau. Alors, avec vous ce soir, on va donc essayer de voir, d'abord peut-être s'il y a un risque, mais faut-il parler de risque de dilution de ce qui serait une identité du Paris actuel, le Paris intramuros, dans un ensemble plus grand, et comment est-ce qu'on peut donner de la cohérence justement à cet ensemble. Mais peut-être d'abord commençons sur les termes, Emmanuel Bélanger. Et quand on parle de petit Paris aujourd'hui, alors nous dans notre idée c'était justement le Paris à l'intérieur du périphérique. C'est une notion toute relative puisque au regard de l'histoire et de ce qu'est l'histoire de Paris, ce petit Paris actuel est un grand Paris par rapport à ce qu'était la ville à ses origines.
Oui, en effet, on peut s'interroger sur l'expression « petit Paris » parce que elle ne recouvre pas la réalité historique. Paris, ses frontières administratives, politiques, elles n'ont cessé d'évoluer au cours du 19e et 20e siècle. Même sous la Révolution française, lorsque l'on invente en 1790 les départements, on crée un département de Paris, et ce département de Paris, c'est certes le Paris de l'Ancien Régime, mais c'est aussi une couronne de communes, une centaine de communes qui forment avec Paris ce qui va devenir très tôt le Grand Paris, puisque le Grand Paris, contrairement aux images convenues et médiatisées, le Grand Paris a une histoire et cette histoire, elle prend forme, elle s'institutionnalise, elle entre dans les discours politiques des réformateurs dès le début du XXe siècle, au moment de la Belle Époque. Donc finalement, ces frontières n'ont cessé d'évoluer. Bien sûr, il y a le moment, vous l'avez fait allusion dans votre introduction, le moment de l'annexion. Vraiment, l'élection, c'est un acte politique fort puisque c'est un acte radical. On annexe une vingtaine de communes intégralement ou partiellement situées autour de Paris. On double la superficie parisienne.
Voilà, pour évoquer peut-être d'ailleurs quelques noms qui peuvent marquer les esprits. Auteuil, Charonne,
voilà, hein, c'est la Villette, Bercy.
Partie de Pantin, je crois aussi.
Oui, une partie de Malakoff également. Donc, si vous voulez, on a une annexion de ce que l'on appelait la petite banlieue. 400 banlieusards deviennent parisiens. Et là, on a un acte qui va marquer l'imaginaire. Qui va marquer l'imaginaire parce qu'il va faire de Paris, en quelque sorte, cette ville colonisatrice. C'est ce qu'on retrouve déjà dans la presse locale de l'époque. Une ville colonisatrice qui n'a aucun égard à l'égard justement de ces banlieues et qui n'a pas hésité à les annexer.
Olivier Mongin, vous qui vous intéressez alors à Paris, mais aussi à tout un tas d'autres grandes villes, est-ce que justement l'annexion, la ville colonisatrice, c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs, un principe d'agrandissement qui se retrouve dans d'autres grandes villes du monde?
Oui, mais ailleurs, on a des métropoles qui sont plus ou moins instituées, mais vous prenez simplement New York. New York, le centre historique, ça serait l'équivalent de Manhattan, avec autour de Manhattan, effectivement, des communes, des quartiers, des districts qui ne sont pas annexés, qui travaillent de concert avec le centre. Dans le cas de Londres, on pourrait dire la même chose. Philippe Panneret connaît très bien Londres. Dans le cas de Paris, c'est pas du tout ça. Dans le cas de Paris, on a au contraire ce centre historique qui est extrêmement coupé, ça vient d'être dit, même si on a ajouté dans la métropole du Grand Paris la première couronne, qui est coupée du reste. Alors, annexion ou pas, moi j'aime bien l'intitulé de l'émission parce qu'on a envie de le renverser. Moi, le problème, c'est comment le petit Paris, pour moi le centre historique, on va discuter de ça, parce que la vraie question, c'est parce que ce centre historique, c'est quelque chose d'important. Il y a une identité forte. Le gouvernement est là, il y a une mairie forte et on est un pays à état fort. On n'est pas un pays à régime ville, comme disait Brodel, on est un pays à régime état. Donc tout ce qui se joue, c'est le rapport entre l'état et les villes. Mais pour répondre donc à votre question, et on reviendra peut-être sur cette question de la possibilité de relancer une politique urbaine à partir de ce qu'est le centre historique, la vraie question pour moi, l'inquiétude, c'est que justement on voit avec la métropole du Grand Paris telle qu'elle est aujourd'hui politiquement dessinée, est-ce que Emmanuel Macron remettra en cause le fait qu'on s'arrête à la première couronne, comme si le Grand Paris n'était pas concerné par la deuxième couronne, puisqu'une grande partie du développement économique résidentiel est dans la deuxième couronne. Je m'arrête là-dessus, c'est pas le but de l'émission. Ma grande question, on va y revenir, c'est est-ce qu'au contraire, on n'assiste pas à un repli sur le centre historique à travers la politique de la mairie, de Madame Hidalgo and Co. Je pourrais y revenir là-dessus. Il y a toute une série de décisions qui sont prises, qui ne mettent pas nécessairement en valeur, d'ailleurs, ni la première ni la deuxième couronne. Donc, est-ce qu'on est dans une logique à la fois de patrimonialisation, repli sur la ville, et d'ouverture au monde en tant que ville-monde, qui serait ville... Madame Hidalgo rappelle toujours qu'elle est la patronne de l'organisation des villes-mondes. Le problème, il y a un centre historique, donc, qui est une ville-monde, mais notre ville-monde, j'aimerais bien qu'elle s'accroche à son environnement, à son contexte, qui est... Alors, où commence le Grand Paris ? Je ne parle pas politique, mais territorial. C'est le débat qu'on aura peut-être. Pour l'instant, moi, j'observe plutôt, non pas une annexion, j'observe un repli historique sur le centre.
Alors, je vous confesse que s'agissant de la question qu'on pose ce soir,
mais
le petit Paris...
C'est une très bonne question, parce qu'elle permet d'aller au-delà du sujet.
On a plutôt eu envie de poser peut-être la question qui était la plus contre-intuitive, a priori, s'agissant de ce projet. Mais pour rester sur l'idée qu'on est en France, dans un pays où le pouvoir politique est fort et extrêmement centralisé, Philippe Panneret, est-ce que ça peut donc du coup expliquer que l'extension de Paris se soit faite par annexion, et est-ce que c'est un principe qui peut continuer à se faire? Est-ce qu'il y a encore peut-être justement un risque que ce soit encore la méthode qui soit choisie pour élargir la capitale?
La dernière annexion, c'est celle d'Haussmann, et c'est une annexion qui en fait prend comme nouvelle limite le tracé des fortifications. Donc il y a une décision militaire avant l'annexion qui formait une espèce de borne. Enfin, et puis à l'époque, le pouvoir était assez fort et la banlieue, comme on dit, n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui du point de vue de la population. Donc on annexait des terrains dont une partie n'était pas encore tellement habitée. Honnêtement, moi, je n'imagine pas aujourd'hui que l'on puisse avoir une politique d'annexion parce que je crois que toute l'histoire du XXe siècle, qui a été quand même un peu un antagonisme entre Paris et ses banlieues, a pas disposé les esprits à aller d'un air joyeux vers l'annexion. Donc Bon, c'est un peu intuitif, hein, mais je n'imagine pas qu'aujourd'hui on soit dans des conditions qui rendent cette annexion très, très facile. Après ça, est-ce qu'elle est souhaitable? Je ne sais pas, parce que... Alors, ça serait continué comme avant, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on annexe un petit peu, et puis au bout de 50 ans, parce qu'autrefois on mettait peut-être 2 siècles avant de faire une nouvelle enceinte, mais là maintenant on va plus vite. Alors on accélérerait encore un peu plus, et puis encore un peu plus. De ce point de vue-là, la limite de la métropole du Grand Paris aujourd'hui, elle nous semble un peu absurde, parce que, oui, voilà, on a une limite, et puis alors... l'aéroport de Paris... Ben Roissy, Charles de Gaulle, c'est quand même l'aéroport de Paris, c'est pas l'aéroport de Roissy. Hein. Ah ben, c'est pas dans le Grand Paris. C'est bizarre, non? Le château de Versailles non plus n'y est pas, d'ailleurs.
Et Paris-Saclay, le pôle universitaire non plus, oui.
Oui. Donc, voilà, je vois pas du tout d'annexion.
Ça veut dire qu'en tout cas, la délimitation actuelle géographique du Grand Paris ne correspond pas forcément à ce que serait quoi? Alors, à ce que serait une identité parisienne qui serait identique à Paris intramuros et à l'extérieur du périphérique, Emmanuel Bélanger?
Alors, si vous me permettez, je tiens à dire quand même que cette annexion de 1859, elle ne soulève pas de contestation radicale. C'est quand même Paris, c'est un territoire révolutionnaire. Et incontestablement, cette annexion, c'est aussi un acte de réparation, au sens où c'est le moment où les réseaux parisiens de services urbains vont se diffuser à la petite banlieue. Et je crois qu'il faut tout de même l'avoir à l'esprit pour ne pas caricaturer ce moment.
Alors c'est plutôt vu comme une chance.
Si vous voulez, en effet, vous n'avez pas de contestation radicale des conseils municipaux annexés, ni des populations qui vivaient dans ces territoires. Parce que c'est aussi, en quelque sorte, un accès aux commodités urbaines. Et là, la ville... colonisatrice devient, la ville de Paris colonisatrice devient la ville bienfaitrice. Et c'est tout à fait important. Et d'ailleurs, à l'époque, on a ce jeu de caricature où on joue sur, finalement, l'annexion violente et en même temps l'annexion bienfaitrice. Maintenant, ce que vous dites sur les identités, alors il faut toujours utiliser ce terme avec prudence, mais on a incontestablement un patriotisme de clocher très ancré en banlieue parisienne. Très ancré, qui se redouble également d'une politisation de ces territoires tout à fait singulière, si on pense à la banlieue rouge, qui nous renvoie à des oppositions aussi Paris-banlieue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, penser une annexion, c'est tout à fait impossible. Et l'histoire des fusions de communes en France atteste bien, en quelque sorte, des échecs successifs à vouloir réformer la carte communale, y compris pour le Grand Paris.
Ce patriotisme de banlieue, est-ce qu'il existe aussi dans Paris intramuros, Philippe Panneret? Et est-ce qu'il peut y avoir justement une forme de résistance des Parisiens, tels que Paris existe aujourd'hui à l'intérieur du périphérique, en se disant justement, si on élargit un peu trop la ville, on risque de se perdre un peu, de faire se diluer ce qui nous caractérise.
J'ai pas l'impression que il y a une facilité à être parisien du centre. Elle s'atténue légèrement, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, le coût du billet du ticket de métro quand on sortait de Paris devenait tout à fait différent. Maintenant, il y a des choses qui ont tendance un peu à rendre plus facile la vie. Mais j'ai pas l'impression que les Parisiens se sentent menacés de quoi que ce soit. Parce qu'ils ont un nombre d'avantages considérables par rapport à la plupart des communes qui sont juste de l'autre côté du périphérique. Et je parle pas de celles qui sont encore plus loin. Donc ça, non, je ne...
Peut-être parce qu'ils imaginent que Paris intramuros va toujours rester le pôle autour duquel va graviter le Grand Paris, mais on pourrait aussi imaginer que le Grand Paris soit davantage, comment dire, et des services qui soient davantage répartis, davantage équilibrés, auquel cas la ville pourrait perdre aussi un petit peu, comment dire, de son importance.
Oui, mais ça fait déjà, j'allais dire, des siècles que les services gênants sont en dehors de Paris. Bon, donc ça ne serait pas tellement nouveau. Alors aujourd'hui, on met à l'extérieur de Paris, on a mis par exemple à la Défense un ministère important pour des tas de raisons, mais ça n'a pas, pour l'instant, ça n'a pas donné du tout une espèce d'unification entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, honnêtement, je trouve que la question... Il ne faut pas la poser depuis Paris, parce que l'histoire a fait que Paris s'est solidifié, enfin, je veux dire, c'est bon, et puis patrimonialisé peut-être même de manière excessive, mais sa densité plus du double de n'importe quelle commune qui est de l'autre côté du périphérique. Les plus peuplées sont moitié moins denses que Paris en général. Je ne parle pas des arrondissements les plus denses de Paris. Bon. Donc, je pense que la solution qui pourrait s'esquisser, qui a pu même d'ailleurs par bribes s'esquisser dans d'autres périodes de l'histoire, c'est de penser la chose comme une espèce de constellation. Il y a une constellation avec un centre qui a... Bon, c'est un cas particulier du centralisme français. Paris est une ville, c'est le contraire de Londres. Bon, c'est comme ça, mais on ne va pas le... Voilà, il aurait fallu supprimer toutes les enceintes comme à Londres. Il me semble que c'est 1603, non là.
Alors ça, je ne serais pas en mesure de vous contredire ou de confirmer ce chiffre-là. Olivier Mongin, dans la présentation que j'ai faite de vous tout à l'heure, j'ai omis de citer un autre ouvrage, La condition urbaine. Oui, et au seuil, en 2005. Et dans la présentation de cet ouvrage, il était notamment écrit ceci. Enfin, c'était deux questions. Allons-nous assister au déclin irrémédiable des valeurs urbaines? La fragmentation et l'étalement chaotique vont-ils inéluctablement l'emporter? Est-ce que ça dénotait, ça, justement, peut-être une forme d'inquiétude de cette dilution d'une identité que j'évoquais à propos de Paris?
Mais dans le sillage de ce qui vient d'être dit, je crois l'inquiétude du Parisien, ce que je suis par exemple, et qui en jouit, hein, comme l'a dit Philippe Panneret, on bénéficie d'énormément de services, etc. C'est effectivement, si on est locataire, c'est de pouvoir tenir le coup dans un contexte quand même, c'est pas le but de l'émission, mais il faut quand même en parler, sans être marxiste de base, c'est tout le problème de l'accession au loyer, enfin le loyer, l'immobilier, mais ça c'est très important, parce que vous avez une transformation, je pense que d'autres pourront en parler mieux que moi, mais vous avez une totale transformation de la sociologie parisienne. Peut-être pas dans les quartiers de l'Ouest, comme ici, près de la Maison de la Radio. On a une transformation. Et le problème est de savoir si aujourd'hui nous avons des résidents de la ville parisienne centre. L'autre inquiétude, et je vais revenir, l'autre inquiétude, c'est de voir la vie de quartier disparaître. J'ai la chance de vivre dans le centre, etc. Il est évident, on n'en a pas encore parlé, on en parlera peut-être, que l'afflux touristique est extrêmement rapide, transforme à une rapidité incroyable cette ville. Et ça, on n'est pas à Barcelone encore, mais on va vers une situation très dure là-dessus. Alors bien entendu qu'on en tire des gains du tourisme, etc. C'est-à-dire que cette ville devient de plus en plus attractive. Elle est attractive, elle regarde vers le monde, elle regarde vers l'extérieur, la ville historique hein, dont nous sommes habitants, elle regarde vers l'extérieur, elle est de plus en plus décontextualisée de son environnement, parce qu'elle est en lien, c'est ce qu'on appelle la ville globale, depuis le grand livre de Madame Sassen, elle est en lien avec les autres villes, effectivement, dites globales, comme le pourrait être... on n'est pas encore un petit Singapour, ça, on ne le sera jamais, parce qu'on est une ville historique qui a été construite dans la durée, avec ses monuments, et ça, il faut en parler un petit peu, parce que l'histoire parisienne, c'est justement, selon moi, ce qui pourrait redonner une impulsion à la ville. Donc l'autre inquiétude, l'inquiétude des Parisiens, c'est ça. C'est effectivement, vu l'évolution de l'urbanisation qui passe par la connectivité, et là, la ville-centre historique qui est très attractive, et puis on va avoir les Jeux Olympiques, et puis on va avoir une expo universelle, c'est une ville-événement, la mairie de Paris organise tout autour d'événements, on nous fait le coup maintenant permanent, la ville numérique, etc. Mais c'est très important tout ça, mais le résident parisien, il se sent de plus en plus dépossédé de son propre territoire. C'est essentiel. Ouais. C'est une ville qui est en voie de privatisation. Vous allez simplement vous promener sur les trottoirs, vous verrez que les trottoirs sont aujourd'hui loués par la ville de Paris. On peut plus marcher, etc. Bon, c'est les vraies questions. Et la privatisation, c'est la mondialisation économique contemporaine. Donc la ville de Paris, qui devrait être de manière le symbole de la politique, de la vie publique, de l'esprit public, et de la, c'est une ville en voie de privatisation et de décontextualisation très importante.
Est-ce que c'est pas justement alors du coup une façon de répondre de manière positive à la question qu'on pose, le petit Paris va-t-il se perdre dans le grand, c'est-à-dire que avec ce grand Paris qu'on voit relégué à la périphérie tout ce qui relève de l'activité, tout ce qui relève du logement, et d'avoir une ville-centre qui serait une ville à la fois muséifiée, où on viendrait donc pour voir les vestiges historiques et pour faire ses courses dans les grands magasins, Philippe Panneret.
Oui, non mais ça c'est
pas fait, hein.
c'est déjà là. Il y a des quartiers centraux dans lesquels il y a quand même beaucoup moins d'habitants qu'il n'y avait il y a 50 ou 60 ans. Et c'est ce que vient de dire Olivier. Alors, ça touche pas encore tout la surface du petit Paris, mais comme ça marche par ondes successives, c'est-à-dire que c'est sans doute aujourd'hui dans la première couronne que l'on pourrait trouver ce contexte trouvait avant dans les arrondissements périphériques.
Oui.
Ça se voit très bien du côté de Montreuil, etc. Une partie des gens sont allés de l'autre côté parce que c'est moins cher, etc.
Et est-ce du coup, alors on pourrait imaginer que le Grand Paris permette, peut-être, puisque vous dites que c'est déjà là, permette d'atténuer cette tendance-là et permettre justement de mieux répartir justement.
Oui, alors, mieux, je ne sais pas, mais c'est déjà le cas. C'est le cas depuis longtemps. Il y a quand même une osmose entre le 16e arrondissement et Neuilly. C'est un peu la même chose entre le bas du 14e et Montrouge. C'est la même chose du côté du Pré-Saint-Gervais, etc. Non, c'est déjà là. Ça, c'est sûr.
Alors ça pose la question de ce qu'est ou de ce que pourrait être l'identité parisienne, Emmanuel Bélanger. Vous êtes capable de répondre à ça? Si je vous dis c'est quoi être parisien, c'est quoi l'identité parisienne? Est-ce que c'est quelque chose qui est confiné dans une aire géographique précise? Est-ce que finalement il y a plus de points communs quand on est un habitant du 16e avec un habitant du 19e? Ou bien est-ce qu'il y en a davantage finalement quand on est dans une proximité de zone dont nous parlait par exemple Philippe Panneret entre le 16e et Neuilly, par exemple?
Alors, M. Mongin insistait quand tout de même sur une révolution, en tout cas une transformation exemplaire de la sociologie parisienne. Ça, c'est quand même... Ça marque un changement d'époque. Et c'est essentiel de le rappeler, les sociologues le mettent bien en évidence, en parlant notamment des effets d'embourgeoisement, de gentrification. Ce qui peut, en revanche, frapper l'historien, c'est justement, je dirais, la nécessité de rappeler que Paris a été aussi un Paris populaire. C'était un Paris provincial, du fait du rayonnement de la capitale, et c'était aussi un Paris immigré. Aujourd'hui, on est entré dans une autre histoire. Une autre histoire, et ça, je crois que c'est essentiel de le rappeler. Et en même temps, il me semble tout aussi essentiel de dire que Paris, au 19e siècle, comme en 2017, ne peut pas se passer de sa banlieue. Il ne pouvait pas se passer de sa banlieue au 19e siècle parce que la banlieue, c'était ce territoire de la relégation. On a parlé des cimetières extramuros parisiens que l'on implantait en banlieue. On pourrait parler des eaux usées, du traitement des eaux d'égout de la ville de Paris qui se faisait aussi sur les 5000 hectares de terres d'épandage de la banlieue parisienne. On peut parler de tous, finalement, y compris des habitants indésirables que la capitale ne voulait pas et qu'elle reléguait en banlieue. Donc, au 19e siècle, c'est clair, ce territoire ne peut pas se passer l'un de l'autre, en quelque sorte, hein, ce territoire banlieusard et parisien.
Avec peut-être davantage de circulation aujourd'hui, justement, entre Paris et sa banlieue?
Oui, certainement, mais en même temps, vous parliez d'une confiscation ou d'une privatisation du territoire, de l'espace parisien. Et là, je pense qu'on entre vraiment dans une autre époque.
Oui. Olivier Mongin?
Oui, enfin, sur tous ces points, ils sont très importants. Je pense que les sociologues aujourd'hui distinguent le fait de résider quelque part, d'être citoyen. C'est là où je vote si j'habite le 10e arrondissement. Après, il y a l'usager, c'est celui qui peut être première, deuxième couronne, qui vient effectivement, qui profite des services. Au passage, faut quand même dire que le Grand Paris, on a quand même Philippe en parlera mieux que moi, le grand réseau express là, bon, qui est quand même tout cet immense cercle de mobilité rendu possible par un métro express, qui est quand même très important. Ça fait bouger. Mais là, on est dans l'urbanisme. On n'est pas dans la gouvernance ou dans l'imaginaire, justement, dans l'histoire. Il faut quand même rappeler des choses qui sont faites, mais le Grand Paris ne peut pas se réduire à simplement du service de mobilité, mais qui existe quand même, on va voir, mais on connaît aussi tous les problèmes du RER, etc. Il y a le résident citoyen, il y a l'usager, et puis il y a l'habitant. Dit quelqu'un comme Philippe Esteb, c'est très important, c'est-à-dire le problème, où est-ce qu'on habite? Et aujourd'hui, effectivement, pour un Parisien comme moi, on n'habite plus simplement dans le centre historique, ça n'a aucun sens. Et on n'habite pas simplement entre... Moi, j'habite pas à Dubaï et Paris en même temps, on vit pas entre deux villes interconnectées. Donc la question de savoir où on habite et comment à Paris est très important. Et d'un mot, moi, je reprends ce qui a été dit, il faudrait le développer. Moi, je pense que Paris, centre historique, doit redevenir fondamentalement ce centre historique dans un monde où on n'est plus dans un rapport de périphérie, c'est-à-dire l'État par rapport à ses départements, à tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, venu de l'extérieur de la province, vous le savez bien, Paris, ville des riches, ville du président, ville des... Bon, riches-pauvres, moi je suis contre ce discours de la fracture territoriale, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et l'évolution de Paris va dans ce sens-là. Voir le rôle qu'ont Pinault, Arnault, aujourd'hui, dans beaucoup de choses. Et je termine sur un point, moi, que je peux développer après, parce que ça me passionne. N'oublions jamais, ça a été dit à l'instant, n'oublions jamais que le Paris politique, il est fondamental. Il s'est pensé, le Paris-Centre, l'hôtel de ville, contre Versailles. On a fait la révolution face à Versailles. Là, c'est-à-dire que Paris, moi, dans l'imaginaire parisien, et c'est ça qui est formidable, il y a une ambivalence. Et quelque part, le progrès était porté à l'intérieur de cette ville qui apparaît aujourd'hui comme une espèce de territoire réactif. Alors que, ben, vous le savez très bien, la cité idéale, c'est la cité du roi qui avait quitté Paris, et on allait le chercher là-bas, hein, la cité idéale, les jardins, etc. Moi, j'étais prof à l'école du paysage de Versailles. Le modèle du paysage en France, c'est les jardins du roi. Hein, c'est quand même extraordinaire. Donc, il faut penser quand même le rôle politique qu'a eu Paris. Et d'un mot, moi, j'aimerais qu'on le développe. La question du centre historique de Paris, ça va devenir la capacité de créer un imaginaire politique qui soit un imaginaire qui porte justement la tradition politique de Paris, qui est une tradition qui n'est pas uniquement révolutionnaire, qui a porté des questions de justice sociale. On a peut-être mis dehors des ouvriers, Haussmann, etc. On peut tout dire. Mais Paris, pour moi, c'est fondamental. C'est un imaginaire politique. Et si on n'est pas capable de le porter, ben on fera que s'adapter à la mondialisation.
Mais est-ce qu'une des difficultés pour développer cet imaginaire politique par rapport au Paris centre historique ne tient pas aussi à une forme de... Enfin, c'est même pas une forme, c'est une frontière qui est extrêmement visible, voire extrêmement brillante, qui est constituée par le périphérique parisien. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une rupture de la continuité entre le Paris intramuros et le Paris, justement, de l'extérieur. Philippe Panneret, est-ce que ça ne complique pas énormément, justement, ce dossier? Est-ce que ça ne contribue pas à faire en sorte que les Parisiens se sentent peut-être à l'abri, voire protégés, justement, de l'extérieur? Par ce périphérique.
Si on revient sur la question de l'imaginaire, est-ce que c'est la question de l'imaginaire du petit Paris ou est-ce qu'il y aurait un imaginaire possible ou en train d'éclore du grand Paris? Moi, je pense que quand on est dans le débat parisien-parisiano, on dit oui, de l'autre côté du périphérique, c'est plus Paris. Si on parle de Paris ou si on rencontre des habitants du Grand Paris à 4000 km de Paris et qu'on leur demande où est-ce qu'ils sont, ils commencent par dire qu'ils sont à Paris. Après ça, ils disent non, on est à Paris, on habite Montreuil. Mais de la même façon qu'un habitant de Montréal peut habiter Montréal, City of Montréal, ou bien Westmont, ou bien etc. Donc, moi, c'est ça que je trouve le plus important aujourd'hui, parce que creuser sur le centre historique et essayer d'éviter qu'il soit encore plus patrimonialisé et touristique, je crains que ça soit malheureusement une bataille un peu perdue. Mais après, bon. Mais voilà. Pour moi, ça me semble évident qu'il y a une espèce de très ancienne relation entre l'histoire du Paris, du petit Paris, du Paris capital, de la ville, et puis l'histoire de ce vaste territoire.
Mais est-ce que le périphérique est quand même un obstacle aujourd'hui pour penser?
Oui, mais c'est rien. Je veux dire, c'est un signe, évidemment. Et de temps en temps, en le couvrant, on adoucit le signe. Mais c'est pas... Si l'on voulait vraiment que ce périphérique ne soit pas un obstacle, ce serait relativement facile. Il faudrait non pas le couvrir partout parce que ça serait odieux, mais multiplier les franchissements. Ce qui n'est pas horriblement cher. Enfin, tout est cher aujourd'hui, mais bon. Mais je crois que c'est pas là la question. La question, c'est de se demander si, pour l'ensemble des habitants, il y a des points de repère, on va dire historiques, ou de sites particulièrement intéressants qui sont à l'extérieur du Paris central et qui ont un rapport avec l'histoire et avec l'imaginaire général. Si on va se promener sur la terrasse de Saint-Germain, on est évidemment parisien. Et on a une relation tout à fait curieuse par rapport à ce que l'on fait quand on se promène aux Tuileries. C'est tout à fait autre chose. Bon, on pourra en citer d'autres, hein. Y avait autrefois les guinguettes le long de la Marne où allaient les Parisiens le dimanche. Ça les empêchait pas d'être parisiens, mais c'était un territoire où ils étaient chez eux.
Emmanuel Bélanger, dans les rapports et dans l'histoire des rapports conflictuels, pas seulement conflictuels, mais pour reprendre le titre de votre livre, entre Paris et ses banlieues, le périphérique, ça n'est qu'une péripétie, enfin, ça n'est pas quelque chose de constitutif de ces conflits?
Oui, je pense. C'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse à la sociologie historique de Paris et de sa banlieue, on se rend compte que finalement, il y avait des liens naturel entre le Paris populaire et la banlieue populaire. Il y avait des liens tout aussi naturels dans ces formes de sociabilité, de vote aussi, de vote politique. On avait un Paris rouge tout de même jusque dans les années 70-80. Et donc on avait des continuités urbaines et politiques entre ce Paris rouge et cette banlieue rouge. Et on avait également, à l'inverse, des continuités entre le Paris bleu et la banlieue résidentielle et bourgeoise du type Neuilly. Donc je crois que vraiment aujourd'hui, ce qui fait frontière, c'est moins le périphérique, on l'a dit à plusieurs reprises, que la sociologie, l'enracinement des richesses et l'enracinement des pauvretés. Et du coup, finalement, incontestablement, les frontières, eh bien, on peut s'arrêter sur le périphérique, mais elles ne sont pas là. Et l'enjeu, je pense, c'est... alors là, c'est peut-être plus l'historien qui s'exprimera, encore qu'il peut être éclairé par le passé, mais c'est finalement... de créer, de dépasser ces fractures sociales, urbaines, territoriales qui sont celles de notre époque, en inventant de nouvelles politiques que l'on peut appeler des politiques de péréquation, de redistribution, qui permettent en quelque sorte à la grande ville, Paris, de contribuer, je dirais, à la cohésion et à l'intégration des territoires les plus populaires. Hein, si l'on pense ne serait-ce qu'à la Seine-Saint-Denis.
Est-ce que ça peut passer aussi par la création ou la valorisation d'autres centres-villes que ceux de Paris, Olivier Mongin?
Oui, non, dans le, je crois que à c'est l'intérieur le du vrai Grand débat, Paris. Le débat sur la métropole, et moi je crois qu'on est tous opposés à la métropole politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Le débat bloque un petit peu parce qu'on dit l'extension, quelle ville, l'extension de la ville, est-ce que Paris doit être une petite ville, une grande ville? Je rappelle que Sarkozy, quand il a lancé le Grand Paris, il parlait de la région capitale. Et moi je préfère beaucoup ça, parce que il ne s'agit pas de dire maintenant que, comme certains le préconisent, que c'est la région qui doit devenir le bon territoire du Grand Paris. C'est un débat qui est pas... Moi je trouve beaucoup plus intéressant de réfléchir sur ce que peut être de sens historique, dans un cadre métropolitain, mais qui est, comme on vient de le dire, comme l'a dit Philippe Panneret, qui peut être multiple. Et une des plus belles pistes qu'on ait eues dans les projets d'architectes urbanistes sur le Grand Paris, c'était le projet Grimbach, qui a été beaucoup repris, qui est repris même par la ville de Paris, c'est-à-dire ouvrir Paris, ouvrir la Seine de Paris au Havre. Et quiconque vit à Paris, même on voit très bien que les mouettes du Havre, elles viennent à Paris en temps d'hiver. Elles sont là, c'est pas loin le Havre. Les peintres, ils ont suivi la Seine, les impressionnistes pour aller voir. On voit très bien que Paris vit en dehors d'eux. Alors c'est une autre thématique, qui est une thématique de professionnel plus que comme Philippe Panneret, qui est la question du grand paysage. Il est évident que le territoire mental de Paris, il dépasse tout à fait ces histoires de. Et moi, je suis très favorable à l'idée que Paris doit être constitué comme une métropole où le centre historique peut avoir un rôle central parce qu'on en a un pays à état fort, même s'il est en train de se délester. C'est la ville capitale, mais on peut plus être une capitale comme on l'a été autrefois. Mais ça restera une ville parce que c'est très important, la capitale, dans notre culture politique. C'est une ville qui a réinventé un peu la justice sociale au milieu du 19e, mais c'est pas moi l'historien ici. Mais quand même, face au mouvement ouvrier, on n'a pas inventé l'État-providence, mais on a inventé un certain nombre de mesures qui seraient peut-être utiles à avoir aujourd'hui dans les pays émergents et de ne pas balancer chez nous. Donc quand même, la justice urbaine est une question qui revient et que Paris devrait porter. Paris, c'est un palimpseste avec des tas de traditions. Et donc, moi, je suis pour une vision de la grande région avec, ce qui a été dit plusieurs fois, un lien avec la grande métropole portuaire qui devrait être l'ouverture au monde de Paris. Une métropole portuaire portée par trois villes, Le Havre, Rouen et Caen. Et on devrait avoir comme ça des métropoles multiples autour de ce centre historique et d'un petit... Enfin, du, voilà, et on réfléchit pas du tout comme ça. On réfléchit comme si le centre devait avancer ou se retirer.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, du coup, Philippe Panneret, un Grand Paris avec différents centres? Alors, il y aurait un centre historique, mais il pourrait y avoir, je ne sais pas, un centre administratif, un centre industriel. Oui, sauf qu'ils ne sont pas perçus comme ça, ils ne sont pas valorisés de cette manière-ci.
Alors, il y a quand même quelques évidences. Il y a des villes. Alors c'est administratif, mais il y a des villes qui sont les préfectures et les sous-préfectures, et ça joue un certain rôle quand même. C'est-à-dire que Saint-Denis, ce n'est pas... Alors, qui n'a pas été choisi comme préfecture parce que, etc., etc. La lutte de l'époque limitait le pouvoir des communistes. Mais, oui, non, mais c'est ça. Mais si on prend Saint-Denis, qui est une ville historique, elle continue à jouer un certain rôle autour d'elle. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime bien l'image de la constellation, parce que il y a un centre principal, il y a un centre qui est moins important, mais qui sert de centre local sur une dizaine ou une vingtaine de communes autour. Versailles, ça fait des années que c'est une ville qui administrativement, en partie culturellement, alors du point de vue de la richesse, le terrain vaut, enfin, ça vaut aussi cher qu'à Paris. Hein. Donc voilà. Donc il y a une ville qui est une ville de la bourgeoisie depuis la fin de la guerre de depuis la guerre de 70, pour aller vite. Hein. Oui.
Mais c'est sans doute, alors si on prend Versailles, c'est sans doute la seule ville qu'un touriste étranger serait capable de citer en parlant d'un voyage prévu à Paris. C'est Versailles avec son château. Et puis évidemment Euro Disney, mais sinon toutes les autres villes ou toutes les autres, comment dire, tous les autres lieux d'intérêt touristique ou historique sont quand même beaucoup plus effacés par rapport au poids que pèsent quand même tous les lieux de Paris à travers.
Oui, mais si vous regardez par exemple ce qui se passe autour de Sceaux, où il y a aussi un château moins important, enfin le parc est intéressant, le château il a été supprimé, mais avec un certain nombre de grandes écoles qui sont autour, pas très loin, etc., on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui existe là. Bon, alors, est-ce que ça sera fondu un jour dans Saclay, dans Paris-Saclay ou pas, ça je ne sais pas. Mais il y a, me semble-t-il, la matière, il suffit de pas grand-chose. Il y a des questions de transport et puis il y a des questions de mettre en évidence les choses qui sont oubliées.
Peut-être que l'histoire nous enseigne d'ailleurs que c'est comme ça aussi que c'est constitué ce qui nous paraît une réalité totalement intangible qui serait ce cœur historique de Paris, Emmanuel Bélanger.
Oui, je crois que la polycentralité, c'est pas une invention du 21e siècle. On a raison d'insister sur la centralité dionysienne, par exemple, hein, siège, lieu de l'invention du gothisme, nécropole des rois de France. Et puis toutes les communes populaires et même résidentielles, souvent, elles s'inventaient une centralité, elles faisaient vivre une centralité et qui nourrissait justement un patriotisme communal, un patriotisme de clocher enraciné. Donc, bien sûr, je crois qu'aujourd'hui, enfin, faut peut-être l'espérer, on n'est plus dans une vision radioconcentrique des rapports Paris-banlieue, mais bien plus dans une métropole que l'on souhaite plus intégrée, certainement aussi plus solidaire, pour reprendre le titre de notre livre Paris-banlieue.
Oui, parce qu'il n'y a pas que du conflit, hein, il y a de la solidarité.
Voilà, c'est ce qu'on disait. On disait qu'il n'y avait pas... Et puis il y avait aussi la réelle politique, il y avait automatiquement du compromis, parce que, comme je le disais tout à l'heure, Paris ne peut pas se passer de ses banlieues, et ses banlieues ne peuvent pas se passer de Paris.
Et du coup, ça nous permet peut-être de terminer. Alors, ça mériterait une émission en tant que telle, mais puisque vous parlez de compromis, Olivier Mangin, pour qu'il y ait compromis, la nature du compromis, elle dépend aussi beaucoup du rapport de force. Et ça, c'est évidemment un des enjeux de ce Grand Paris, c'est-à-dire le rapport de force politique.
Oui, non, mais tout ce qu'on a dit depuis le début va dans ce sens-là. On va voir ce qui peut être décidé par l'actuel président. Mais ça, mais bien entendu qu'on est dans un enjeu politique. Et moi, quand je dis qu'il faut réévaluer l'imaginaire parisien, c'est que la question démocratique, elle est là. Et quiconque travaille sur l'urbanisation mondiale, comme je le fais, on ne va pas tout à fait en Inde ou en Chine vers la démocratie. Donc, on a quand même un rôle à jouer par rapport à ce qu'est l'urbanisme, simplement. On a un urbanisme de la durée, ce qui n'est pas le cas en Inde ou en Chine. On a des choses à... C'est pas pour défendre l'Europe contre le reste du monde, mais je pense qu'on est en train de perdre du terrain sur ce terrain d'urbanisation. Et donc, défendre les valeurs d'urbanité, ça me paraît essentiel, parce que ça fait partie de l'histoire européenne. Quand on se promène ailleurs, malheureusement, les valeurs d'urbanité, elles n'existent pas beaucoup. Après, pour le reste, il faut aussi faire preuve d'un peu d'imagination. Quand effectivement, on fait du tourisme sur 2-3 jours, on fait le Louvre, on fait Versailles, bah, pourquoi on ne pourrait pas imaginer quand même un petit passage, puisqu'on vient d'évoquer, on n'est pas dans le centre historique, à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une cathédrale aussi importante que Notre-Dame de Paris. Ces cathédrales, c'est pas des gratte-ciel, mais ça a porté, c'est Victor Hugo, ça a porté notre ville. Donc aujourd'hui, il faut trouver les Victor Hugo d'aujourd'hui et aller regarder la littérature de banlieue. Elle est extrêmement importante. On n'en a pas parlé, mais il y a énormément, d'ailleurs, faut le reconnaître, depuis 2008, il y a eu beaucoup de production. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Et il y a un changement des habitants qui est fait, ils racontent leur parcours. Vous avez plein de guides de parcours. Mais il y a plein de gens qui inventent leur propre parcours. Et je dirais, les romans, les ateliers d'écriture se multiplient. C'est-à-dire, l'imaginaire, il est individuel, il est fragmenté, mais il est très important hors de Paris. Hein, alors, est-ce qu'on peut les... les raccorder. Moi, je suis d'accord avec l'idée de polycentralité, hiérarchisée, comme a dit. Mais l'imaginaire, il sera porteur, parce que l'imaginaire, c'est les corps des habitants. C'est aussi clair que ça.
Et ben, on va rester sur cette belle formule pour terminer cette discussion. Merci beaucoup Olivier Mongin, Emmanuel Bélanger et Philippe Panaret d'avoir participé à cette discussion. On peut retrouver vos ouvrages respectifs sur la page de notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à l'équipe du Grain, Eva Pellerin, Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Leduo et Antoine Dulster. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Arnaud Laporte, la dispute, vous arrivez bientôt, vous êtes déjà là même.
Oui, enfin, moi je suis là, la dispute à 19h03, on parlera de littérature ce soir avec Chantal Thomas, Philippe Roth et Emmanuel Beauve. Et dans du Grain à Moudre demain?
Eh bien demain, vous savez qu'on va faire cause commune, consacrer un 18-20 au Bel Air à Radio France, à la politique culturelle. Nous, on s'intéressera à la question de la télévision. Est-ce que c'est un miroir déformant de la politique culturelle? Vous, vous serez sûr?
Le spectacle vivant. Ça sera pour le programme de demain, ça promet.
Et bien demain
au Bel Air.
Enfin non, à tout à l'heure, à tout de suite même.
Bon, à tout de suite, vous ne savez plus du tout.